Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour moi.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Avant, il y avait le crépitement des oignons jetés dans la poêle par ma grand-mère annonciateur d'une pie saladière. Il y avait les cloches du village à 6h du matin me sortant du lit, les mobilettes pétaradant parce que ces idiots de garçons trouvaient marrant de percer le pot d'échappement. Et puis les stridulations des cigales, bien sûr, marquant l'arrivée de l'été et de la chaleur estivale. Ça, c'était avant que je ne quitte le sud pour la grande ville, la capitale. Mon paysage sonore s'est alors métamorphosé. Dans mes oreilles se succèdent les sirènes des ambulances de l'hôpital d'à côté, le vrombissement du métro passant sous mes pieds, les discussions enflammées des voisins attablés au bar d'en bas et ce léger bruit des scooters électriques qui me font jurer « bon sang, on ne les entend pas arriver ». Et puis au printemps dernier, Paris s'est vidé de ses sons. J'ai entendu des oiseaux, le quasi-silence, place de la Concorde. Un spectacle effroyablement merveilleux. Pourtant, il me fallait du bruit, celui des bagnoles, des gens, de la vie, cette agitation permanente qui donne aussi le pouls d'une ville. Oui, je voulais de la pollution sonore, mon corps sans doute moins. Mais à quoi ressemblent aujourd'hui nos paysages sonores? Est-ce que les bruits de Paris sont similaires à ceux de Bombay? Est-ce que la nature est si silencieuse? Et vous, quels sons du quotidien aimez-vous particulièrement?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin pour un voyage sonore, il est à côté de moi. Bonjour Tilassine. Bon, alors est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous entend bien? Voilà, ça y est. Bonjour Tilassine, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes musicien, saxophoniste, entre autres, et chasseur de sons, comme le sont deux autres invités. Bonjour Jérôme Sueur.
Bonjour Eva.
Bonjour, vous êtes éco-acousticien au Muséum national d'histoire naturelle. Vous allez nous expliquer en quoi consiste votre métier tout à l'heure. Et dans un instant, nous serons avec Christine Guibaud, en duplex depuis Aix-en-Provence, chez nos confrères de France Bleu Provence. Elle exerce un métier passionnant, ethnomusicologue. Elle est chercheure au CNRS et elle co-dirige le centre de recherche en ethnomusicologie. Ça s'appelle le CREM. Vous êtes musicien, Tilassine, je le disais. Est-ce que les sons du quotidien, est-ce que cette musique que l'on entend régulièrement a été toujours une sensibilité à vos oreilles? Est-ce que déjà enfant, vous adoriez chasser les sons?
Alors, un petit peu, mais je crois que ça s'est surtout déclenché en voyage. Enfin, c'est un petit peu comme quand on est chez soi, on prend pas de belles photos ou de choses comme ça, on a besoin de partir et là on est émerveillé partout. Et ben, j'ai un petit peu le même sentiment avec les sons, quoi. C'est-à-dire que les sons qui m'entourent naturellement chez moi, j'y fais plus trop attention, puis d'un coup je suis dans un autre pays et tout me paraît intéressant et j'ai envie de capter tout ça, quoi.
Alors, quand vous êtes chez vous, est-ce qu'il y a un son du quotidien qui vous plaît particulièrement? Cette question qu'on a posée à nos auditeurs.
Je pense que le sifflement de la bouilloire, c'est une bonne journée qui commence, quoi.
Parce que ça rythme aussi, ça donne le tempo.
Ouais, ça rythme et puis c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup en fait la bouilloire qui siffle et tout. C'est assez typique. Je pense que celui-là, c'est celui que je préfère le matin.
Jérôme Sueur, quel est votre son préféré dans votre quotidien?
Alors dans mon quotidien, il est un peu étonnant. C'est le son de la mouche.
Ouais. Ah bon?
qui arrive au printemps, parce que pour moi c'est annonciateur du printemps et ça veut dire que je vais bientôt quitter la ville, retourner dans la campagne et pouvoir réécouter des sons de la nature, notamment des insectes et notamment aussi des cigales comme vous.
Eh ben oui, c'est vrai, c'est l'équivalent de mes cigales, votre mouche. Et nous sommes en ligne avec Christine Guibaud. Bonjour Christine.
Oui, bonjour à vous.
Quel est le son du quotidien qui émeut vos oreilles particulièrement?
C'est une question que je me suis jamais posée.
C'est vrai.
Mais en fait, j'ai un coup de cœur potentiel pour les sons du matin. C'est vrai. Le réveil, tout ce qui émerge un peu du silence est toujours émerveillant un petit peu.
Donc vous aimez vous réveiller, c'est déjà une bonne nouvelle en fait. Vous savez, il y a des gens qui détestent le bruit des réveils. Jérôme Sueur, j'ai utilisé à Essian le terme de son plutôt que celui de bruit. Est-ce que l'éco-acousticien que vous êtes, vous pouvez nous expliquer la différence entre justement le son et le bruit?
Alors, c'est en fait plus facile de définir le bruit. Le bruit, c'est un son, hein, c'est une matière acoustique qui va perturber quelque chose. Donc, le plus souvent, quand on parle, en tout cas pour les animaux, c'est un son qui va perturber leur communication, leurs échanges d'informations entre deux individus, par exemple deux oiseaux, deux baleines ou deux grenouilles. Donc, c'est un perturbateur. Et c'est aussi un perturbateur de nos vies,
oui.
De notre bien-être, de notre physiologie, de notre capacité à nous concentrer, à nous reposer. Donc finalement, pour moi, le bruit, c'est une forme de pollution. Maintenant, le bruit des uns n'est pas forcément le bruit des autres.
Mais
c'est
oui.
une notion qui est très très relative.
Même dans l'usage du vocabulaire qu'on a, beaucoup d'auditeurs nous parlent par exemple du bruit des vagues. A priori, vous oui. diriez plutôt le son des vagues, vous, de votre côté.
Le son des vagues, on entend très souvent parler du bruit de la nature, du bruit
oui.
des oiseaux. Moi,
ouais.
ça me fait un peu bondir. C'est le son des oiseaux ou le chant des oiseaux. Et le bruit, pour moi, en tant qu'écoacousticien, donc avec un regard vers la nature, c'est plutôt les sons des hommes.
Alors,
donc ça va être plus ce que vous disiez, plutôt tous les sons de la ville qui vont perturber le comportement animal, mais aussi le comportement humain et la physiologie humaine, qui sont pas des sons pour moi qui me semblent essentiels parce qu'ils ne portent pas tant d'informations que cela. Alors c'est vrai qu'un métro qui passe, le son, le bruit d'un métro qui passe, ça me dit qu'il y a un métro qui passe.
Oui.
C'est pas une information forcément essentielle.
D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous
le bruit ne porte pas d'information.
Oui. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les trois catégories de sons, parce qu'il y a le son de la nature, le son produit ouais. par l'humain. Donc il y a trois termes, c'est ça, pour définir tout cet environnement.
Oui. Alors, oui, tout à fait. Quand on travaille sur les paysages sonores naturels en écologie, on considère trois grands ensembles. On parle de la biophonie, qui sont tous les sons produits par les êtres vivants. Alors en excluant l'homme, c'est
oui.
une question, est-ce qu'il faut exclure l'homme ou pas. Il y a la géophonie, qui sont tous les sons naturels, mais qui sont pas liés à des êtres vivants. C'est le son de la pluie, des vagues de la mer, d'une rivière, l'orage. Et puis il y a l'anthropophonie, qui sont tous les sons produits par les humains, que ce soit la voix, la musique, ou tous les sons bruits des machines.
D'accord.
Donc, bruit des constructions, du jardinage, de la
dès qu'il y a une intervention humaine, donc, oui. Voilà. Christine Guibaud.
Oui, dès oui. qu'il y a une intervention humaine.
Christine Guibaud, quel est l'univers qui vous intéresse le plus, justement, dans ces trois catégories de sons?
Oui, alors moi, je pratique les sciences humaines, donc nous, on aborde le son à partir de l'humain, mais dans sa relation avec les éléments qui viennent d'être évoqués. Donc, le terme de paysage, on l'a utilisé longtemps, c'est un terme qui vient de la notion de soundscape,
oui. mm-hmm.
mais qui a une connotation un peu visuelle, c'est-à-dire une écoute un peu esthétique du monde. Et c'est vrai qu'en anthropologie, nous, on cherche à s'immerger, c'est-à-dire essayer de voir ce que font les hommes entre eux, mais les hommes dans leur relation avec leur environnement, donc qui peut être naturel, animalier, et donc de s'immerger et de voir comment on rentre en relation par le son. Et il y a un autre terme qu'on utilise aussi pour, comme ça on aura
oui.
la palette complète des termes, c'est le son de la notion d'ambiance, de son ambiant, qui est très important aussi parce que ça caractérise aussi davantage la perception. Parce que le son, on peut le voir, comme vous voyez, de différentes perspectives. Donc, du point de vue de l'ambiance, c'est de considérer le son comme il est entendu et donné à entendre. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, dans les espaces publics. Donc, mes terrains se font principalement en Inde. Donc, par exemple, comme la rue, les gares, tous ces lieux où circulent les gens. Il y a toute une écologie sonore qui est faite par les gens, qui est aussi le résultat de tous les sons de nos activités quotidiennes. Mais à l'intérieur de cette densité, il va y avoir certaines formes d'action qui vont être mises en marche.
Est-ce que je peux vous couper, Christine? Parce que justement, j'aimerais bien qu'on écoute un extrait de ce travail dont vous parlez en Inde. Votre micro a enregistré notamment une scène qui se déroule dans une gare et ça donne ça. Christine Guibaud, qui sont ces gens qu'on entend crier?
Alors là, vous nous avez immergés dans la gare routière indienne.
C'est ça, oui.
Alors, c'est un environnement sonore, comme vous pouvez l'entendre, qui est comme un milieu, on peut utiliser le terme de milieu, où il y a une très grande densité. Donc ça va des sifflets au son de moteur, et puis Je pense qu'on capte ces voix humaines
complètement,
qui haranguent, en fait, c'est des harangues, et qui appellent les passants à monter dans les bus pour créer une sorte de flux et qu'il y ait un maximum de personnes qui accèdent au bus. Donc c'est des espaces qui sont intéressants à étudier et à comparer parce qu'il y a des choix qui sont faits, notamment de pas utiliser le visuel. Il n'y a pas de panneau, il n'y a aucun endroit où on peut lire tel bus partira de tel endroit.
Tout passe par le son acoustiquement. D'accord, d'accord. Voilà. C'est pour ça que vous aviez choisi cet endroit-là particulièrement.
Oui, parce qu'il y a une très forte densité. Et puis, on parlait du bruit tout à l'heure. Au premier abord, on pense que ce type d'éléments sonores, c'est juste un brouhaha, un assemblage de bruit. Mais en fait, à l'intérieur, il y a toute une organisation sociale qui se fait. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant qu'anthropologue.
Alors, Christine Guibaud, Thilassine, qui est à mes côtés, et j'ai pas choisi cet extrait de La Gare exprès, Thilassine, parce que vous aussi, vous vous êtes intéressée à cet univers. C'était en 2015. Vous sortiez alors votre premier album Transsibérienne, ouais. Ça sera plus logique de le dire comme ça. Où est-ce que vous avez enregistré cet opus? Dans quelles conditions?
Eh ben, dans le Transsibérien. Je suis partie de Moscou jusqu'à Vladivostok. En fait, à l'époque, Je me rendais compte que j'étais un peu plus créatif en composant dans les trains entre les concerts que chez moi, en fait, enfermé, quoi. Ça me faisait un petit cocon, il y avait le paysage qui défilait, je rencontrais des gens, il y avait une sorte de dynamique comme ça qui était hyper intéressante musicalement et artistiquement. Et donc voilà, je me suis dit un peu bêtement, c'est quoi le train le plus long du monde? Est-ce qu'il y aurait pas moyen d'en faire un long format? J'étais même pas dans le but de faire un album à l'époque, mais voilà. Donc je suis parti, j'ai mis pas mal de temps à monter ce projet, mais je suis parti avec un petit peu de matériel dans le Transsibérien je suis parti de Moscou et j'ai fait plein de petits arrêts dans des petits villages pour enregistrer des gens. Je me suis fait balader par des rencontres, en fait, comme ça. Et je me suis mis à enregistrer des petites grand-mères au milieu de la taïga ou un chaman au bord du lac Baïkal et évidemment tous les sons qui me suivaient à l'intérieur du Transsibérien aussi, quoi.
Alors Christine Guibaud nous parlait de ces paysages sonores, de cette expression que j'aime beaucoup. Tous les sons que vous enregistrez, vous, est-ce que ça vous sert de banque de données et que vous gardez ensuite pour d'autres morceaux, d'autres albums à venir? Ou c'est ça, c'est un paysage sonore, c'est-à-dire que c'est un son que vous captez dans tout son environnement et qui va pour l'album que vous êtes en train de conceptualiser?
Ouais, c'est même, je dirais, le morceau que je suis en train de faire. L'idée, c'est de vraiment donner le contexte dans lequel je suis en train de composer. Et voilà, et ça a commencé un peu dans le Transsibérien où j'étais en train de composer, puis il y avait tous ces bruits environnants et j'avais envie de les mettre parce qu'en fait, ils étaient là. Moi, je composais au casque, mais bon, les bruits, les sons perçaient un petit peu dans le casque. Donc je me suis dit, voilà, je vais raconter tout ça, tout ce qui m'entoure. Et puis voilà, c'est resté. Et il y a des sons, des voix, des choses que j'enregistre. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir raconter que chaque morceau soit une petite histoire, en fait.
Jérôme Sueur, nous écouterons dans quelques minutes un de vos paysages sonores aussi, mais lui, vous, c'est plutôt dans le domaine de la nature. Comment vous travaillez concrètement? Comment vous captez tous ces sons dans la nature?
Mais c'est pas très différent de ce que fait
Thilassine et Christine.
Thilassine, finalement. Puisque on est des observateurs, donc on pose, nous, des microphones dans des milieux naturels. On travaille surtout sur des forêts. Et on les pose et on s'en va. Alors, c'est peut-être là aussi où est quand même la différence. C'est-à-dire qu'on va prendre une certaine distance. Ce sont donc des microphones automatiques qui vont enregistrer, quand on n'est pas là, des moments particuliers. On les programme pour ça. Et donc, l'humain disparaît, l'observateur disparaît. Ça veut dire qu'on espionne, en fait, un petit peu la nature. On enlève le potentiel biais lié à la présence humaine. Et donc, on enregistre très régulièrement et très longtemps. Donc là, par exemple, on a des projets, on enregistre deux forêts, une dans le Haut-Jura et une en Guyane française, sur 15 ans.
J'adore l'expression « on enregistre la forêt ». On a l'impression que vous avez mis des micros partout, dans tous les arbres et dans tous les coins de la forêt en question.
Malheureusement, non. Malheureusement, non. Même si potentiellement, c'est possible, on a un petit peu ça en tête, hein, c'est d'essayer de prendre le pouls sonore de nombreuses forêts en France pour voir leur évolution sur le long terme, des paysages naturels, savoir justement si la biophonie va perdre un certain point par rapport à l'anthropophonie, comment ces ensembles vont évoluer au cours du temps.
Alors je vous propose de prendre le pouls de nos auditeurs aussi, Jérôme Sueur, parce qu'ils sont nombreux à nous appeler. Nous sommes en ligne avec Denis. Bonjour Denis.
Oui, bonjour. Écoutez, je rejoins un petit peu l'analyse de votre invité sur le fait que la nature procure des sons qui amènent vers la sérénité.
Bien sûr.
je suis adepte de longues balades dans les forêts et effectivement, selon les essences des arbres, j'ai pour moi finalement des orchestres différents selon les essences d'arbres, que ce soit des chênes, des peupliers. Pour moi, c'est autant de symphonies jouées.
Ah, c'est beau ce que vous dites.
Non, franchement, des notes de musique qui m'amènent justement à me complaire et à écouter. Et je trouve que bon, c'est bien d'enregistrer les sons, mais pour moi, c'est autant d'orchestres qui ont joué pour moi. Et je sais que demain, si j'ai envie à nouveau d'écouter ces symphonies, selon le vent, eh bien, je parcourrai la forêt, j'écouterai à nouveau voilà, ces belles symphonies jouées par la nature.
Vous nous donnez envie de partir tout de suite de ce studio pour aller rejoindre la forêt. Merci infiniment, Denis, pour votre témoignage. Vous pouvez tous nous appeler au 01 45 24 7000 pour nous faire partager vos orchestres. Et vous nous envoyez un mail aussi ou même une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton « Réagir » sur la page de l'émission « L'été comme jamais » via l'application ou le site. En attendant, je vous propose, Silassine, d'entrer dans votre univers avec le morceau 1978, titre extrait de la bande originale de l'excellente série OVNI à voir sur Canal+.
Comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
Toute la nuit, la place de la Bastille est terriblement bombardée. Les habitants crient, pleurent. Nous cherchons à rallier quelques amis sur la place. Je veux les rappeler à nous en hissant notre drapeau sur la barricade centrale. La Bastille, en cet instant, a quelque chose de magique, d'infernal, digne de l'enfer de Dante. De tous côtés, la mitraille, les balles et le fracas d'un effroyable combat. Des hirondelles passent, poussent des cris et tombent, effarées. Des nuages de poudre se répandent dans le ciel. Du milieu de cet embrasement sort comme une apothéose le génie de la liberté affranchissant le monde.
Vous êtes sur France Inter et vous venez d'entendre un extrait du film Les damnés de la commune, toujours disponible sur arte.tv, film pour lequel j'ai eu un immense coup de cœur. Il s'agit de l'adaptation du roman graphique de Raphaël Messant qui est avec nous ce matin. Bonjour Raphaël Messant.
Bonjour.
Votre film évoque avec précision l'histoire de la commune entre mars et mai 1871. Je me souviens avoir été marquée par la qualité des dessins d'animation, évidemment, Raphaël, mais aussi par la bande-son. Comment vous avez travaillé cette bande-son ?
Alors, c'est un projet que j'ai mené depuis 10 ans. Je l'ai d'abord mené avec de la bande dessinée, avec des romans graphiques. Donc, il n'y avait pas de son, il y avait juste l'image. Et pendant des années, j'avais ces images sous les yeux et je me faisais mon univers sonore. Et puis, les 3 dernières années, on a travaillé sur le film et on a dû imaginer ce que seraient d'abord les bruits de l'époque, les bruits de la ville, les bruits de Paris. Et c'était assez difficile parce qu'on n'avait pas vraiment de témoignages très très concrets. On avait beaucoup de pistes qu'on a suivies. On n'a pas à l'époque les voitures qui sont envahissantes comme aujourd'hui. On avait les calèches avec les bruits des calèches. On avait les animaux aussi, beaucoup d'animaux. Et puis les bruits des foules, les personnes qu'on a essayé de reproduire, donc avec des comédiens, avec la monteuse son qui a fait un travail de recherche des bruits de l'époque, Maïlys Collet qui s'est plongé dans l'époque et qui nous plonge comme on se plonge dans les images, dans les sons de l'époque. Et puis on a travaillé aussi les voix, parce que à l'époque il y avait aussi le témoignage qu'on a eu de cette époque, c'est à travers la voix de personnes. Et là, on entendait la voix d'une personne qui est très chère à mon cœur, qui est Victorine, qui est une personne qui a vécu la commune de Paris, qui a laissé un témoignage.
Incarnée par Yolande Moreau, dans le film, en l'occurrence.
Incarnée par Yolande Moreau. C'est sa voix qui va porter la voix de Victorine et qui va la transmettre un siècle et demi plus tard à nos oreilles et nous plonger dans ce qu'elle a vécu. Nous, on a travaillé en faisant en sorte de commencer par quelque chose qui était assez documentaire, factuel.
Mais alors, est-ce qu'au point de vraiment, par exemple, le bruit des canons, le bruit des tirs, des armes, vous les avez travaillés de façon très précise, c'est-à-dire que vous avez fait des recherches et vous savez que c'est plutôt telle arme et pas une autre ? Ou vous n'êtes pas allé jusqu'à ce... Ça. Vous avez commencé comme ça, c'est ça ?
Si, on a commencé comme ça. On a commencé, Maïlys Collet, à travailler sur les bruits des fusils chasse-peau de l'époque, des canons. Et puis après, on s'est permis de quitter le réalisme et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus poétique pour emmener dans l'histoire, comme dans un film de fiction.
Bien sûr.
Donc, si on a la rigueur historique, on a le souffle narratif de la fiction. Et d'emmener nos personnages, de vivre avec eux ce qu'ils vivaient et de ressentir vraiment ce qu'ils étaient en train de cette aventure collective qu'ils étaient en train de vivre. Donc il y a des moments qui ne sont pas réalistes, on a choisi de distordre les sons,
bien sûr,
de les amener. Par exemple, au début, donc je disais, on est très très réaliste dans les bruits de la ville, dans les sons qu'on pourrait entendre, et puis à la fin, on évolue vers quelque chose qui va être dans le ressenti humain de ces sons.
D'où le travail de quasiment 2 pistes sonores entre le côté réaliste et puis le côté un peu plus onirique où vous avez fait appel à des compositeurs.
Voilà, et puis il y a la musique qui vient nous porter,
bien sûr, bien
qui
sûr.
Vient nous transporter. Donc il y a Yann Volsi et Pierre Caillé qui sont les compositeurs qui ont travaillé cette musique. Là on entendait des violons, on est sur la fin du film, hein, sur cette fin tragique avec la semaine sanglante, les armées... du gouvernement de Versailles qui rentre dans Paris et qui écrase cette commune de Paris, la révolution en 1871 dans Paris, qui l'écrase en prenant depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est.
Oui.
Et puis là, on est un peu les derniers jours de la commune. On entend ces violons. On a commencé avec les choix des instruments aussi. Ce qu'on n'a pas entendu, mais il y a d'autres instruments qu'on a travaillé qui sont les fanfares, avec les trompettes, les cuivres, parce que ce sont des instruments populaires qui avaient un sens vraiment de les reprendre, ça avait un sens. Et avec une interprétation complètement différente, hein. On s'est plus inspiré finalement de marche après un voyage en Espagne. Je revenais de Séville et de Cadiz pendant la Semaine Sainte, des marches de la Semaine Sainte avec leur aspect tragique de ces fanfares.
Et c'est ça qui vous a inspiré
pour accompagner absolument. Ça, pour accompagner la marche des damnés de la commune qui s'engagent dans une aventure qu'ils savent très hasardeuse. très probablement, ils vont pas réussir. Et puis, plus ils avancent, plus ils savent que la fin va être tragique. Et malgré tout, ils avancent, ils y vont parce qu'ils se disent que ça en vaut la peine, que ça vaut même la peine de mourir pour ça.
Merci infiniment, Raphaël Messant, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir emmené dans votre univers aussi, celui de la commune, les damnés de la commune, et à voir sur arte.tv. Merci d'avoir été avec nous. Christine Guibeau, est-ce que les sons du passé vous intéressent ou ceux du présent vous occupent totalement? Vous n'avez plus de place pour ceux du passé?
Alors, par tradition disciplinaire, en anthropologie, on travaille sur le présent, immergé dans le son. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des programmes de recherche qui se font avec les nouvelles générations d'historiens, principalement des historiens qui travaillent à l'époque de l'Antiquité, comme Sibylle Hébrit, Alexandre Vincent, qui sont des chercheurs, en fait, qui lisent beaucoup l'anthropologie et qui, eux, ont des matériaux qui sont muets, totalement muets, c'est-à-dire des textes, des images, des architectures de lieux, des restes, des vestiges, et qu'il faut refaire sonner d'une certaine manière, parfois avec l'aide de la simulation sonore. Mais c'est vrai que ces relations avec les historiens, elles sont assez... aisé justement parce que finalement les questions qu'on se pose, elles sont assez communes, c'est-à-dire comment on exprimait à une certaine époque la notion de silence, de bruit, de son qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut imaginer que à l'époque de la commune, la notion de bruit, l'environnement sonore était aussi différent, le niveau de tolérance et de seuil n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Porter cette même question à l'époque antique, c'est encore un autre niveau. On rentre dans des mondes sonores, donc on est aussi dans des questions d'anthropologie en fait.
Oui, mais alors tout en captant les sons le travail que vous faites aujourd'hui, Christine Guibeau, dans 20 ans ou dans 30 ans, vous serez l'archéologue de notre présent actuel. Est-ce que ma question était très claire?
Vous voyez ce que je veux dire? On est de plus en plus, et grâce à l'enregistrement aussi,
c'est ça.
On a une trace. Moi, il se fait que je co-dirige un centre de recherche qui gère un centre d'archives, qui sont les archives du CNRS Musée de l'Homme. Je vous invite à les consulter, c'est sur l'adresse crème-cnrs.fr. Et on a des enregistrements qui datent depuis le début du XXe siècle, donc des collecteurs, des chercheurs qui étaient des géographes, des anthropologues qui travaillaient au Musée de l'Homme et qui, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire nos étudiants d'aujourd'hui, doctorants, qui ramènent des sons lors de leurs travaux de recherche. Et avec toute cette masse d'informations qu'on traite d'un point de vue numérique, mais aussi se pose la question comment on va documenter, comment trouver le langage transversal parler de ce qu'on a enregistré en 1910 et aujourd'hui. Et on voit en effet qu'il y avait hormis l'évolution des techniques d'enregistrement qui sont évidentes, bien sûr, il y avait une manière aussi de poser son micro qui était différente. Je rebondis à ce qui a été dit tout à l'heure sur comment on pose son micro dans les environnements qu'on veut capter. C'est vrai que dans les années 50, on n'enregistrait pas les personnes qu'on allait rencontrer de la même manière. Tout simplement, le contexte politique n'était pas le même. Et... toutes ces voix aussi qui entourent les voix des chercheurs de l'époque, leur manière de poser leur voix, tout ça fait une matière extrêmement passionnante et qu'on essaye de travailler sous un format un peu plus artistique aussi. Oui. On est des chercheurs qui sommes très intéressés par le montage sonore.
Ah bah alors justement, pardon Christine Guibeau, mais parce que je voulais qu'on parle d'histoire et de création artistique comme vous venez de le faire avec Tilassine, parce que Tilassine, vous avez vécu une expérience incroyable au château de Versailles, vous avez vécu à Versailles, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous êtes allé faire à Versailles?
L'idée c'était d'aller enregistrer plein de sons, j'y allais, alors c'était il y a quoi, deux ou trois ans, j'y allais le soir quand le château était fermé aux visiteurs et je restais toute la nuit. L'idée c'était d'aller enregistrer tous les sons, donc ça peut aller des craquements de portes à toute l'horlogerie en fait du château de Versailles. Je passais plus d'une journée avec l'horloger, c'est incroyable. On est allé sur le toit enregistrer les cloches et puis évidemment l'orgue de Versailles, les clavecins, il y avait une harpe aussi, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et l'idée c'était de s'amuser avec toute cette matière, de la transformer, de la rendre plus actuelle, de se faire ma sauce à moi, mais que ça soit le point de départ d'un morceau en fait.
On écoute un petit extrait, ça donne ça.
Thank you.
Alors je vous conseille de regarder le clip de ce titre. On vous voit, il a signé micro à la main, cherchant des sons. J'aime bien vous qualifier de chasseur de sons. Est-ce que ça vous convient?
Ah ouais, non mais carrément. Bah là, les petits trucs qu'on entend, c'est vraiment les.
La mécanique de l'horlogerie,
ouais,
c'est ça.
Là,
hein,
y a toute la mécanique de l'horlogerie. Il y a les pendules de partout, les lustres qui tremblent un petit peu en fait quand il y a des gens qui marchent à l'étage du dessus. Et c'est plein de sons qui sont inaudibles quand il y a du public et tout ça. Donc moi, c'était extrêmement riche de pouvoir rester dans le silence, et on se rend compte que le château est extrêmement sonore d'ailleurs.
Oui, on l'entend encore,
bah ouais,
encore
c'est
ici.
Ça. Donc c'était vraiment particulier, c'est une vraie chance. Et c'était pour moi la première expérience de travailler un peu avec des sons du passé, un petit peu. Alors sur OVNI, l'extrait qu'on a entendu, c'est aussi la contrainte, c'était que j'ai travaillé que avec des machines qui existaient à l'époque de la série, donc c'est 78, voilà. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup aussi.
Alors on attend aussi vos témoignages. Peut-être avez-vous vécu lors d'un voyage une expérience sonore originale. Dites-nous les sons qui vous font du bien. Je vous rappelle le numéro du standard 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser un mail ou une note vocale sur la page de l'émission L'été comme jamais, sur le site ou sur l'application France Inter.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer. Je vais prendre ta douleur doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie. Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur. Je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins?
Douleur par Camille sur France Inter, extrait de son album Le Fil, dans lequel toutes les chansons débutent par un bourdon, à savoir une note tenue.
France Inter, l'été comme jamais.
Un été comme jamais très sonore ce matin, puisque nous explorons nos paysages sonores en compagnie de nos trois invités. Dans un instant, Jérôme Sueur, je vais vous demander si le silence existe ou pas. Mais nous sommes en ligne avec Brigitte qui vient de nous appeler. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Vous êtes déficiente visuelle, si j'ai bien compris. Donc oui. J'imagine que les paysages sonores sont extrêmement importants pour vous.
Oui, et ce qui m'a fait réagir, c'est justement la définition du bruit qui a été donnée au début de l'émission et qui m'a surprise dans la mesure où pour quelqu'un comme moi, et je pense encore plus pour des gens totalement aveugles, tout bruit est porteur d'informations. Tout bruit nous renseigne immédiatement sur l'espace dans lequel nous nous trouvons, crée des perspectives. Les différentes superpositions de bruit nous permettent de savoir le haut, le bas, ce qui est loin, ce qui est proche, d'identifier aussi la conduite à tenir, à quelle distance est la voiture, est-ce qu'elle roule vite. Et donc voilà, moi le bruit d'un métro qui vibre, c'est immédiatement que je suis dans une grande ville, je suis à Paris, enfin, par exemple.
Oui, bien sûr.
J'allais dire, il y a sauf un bruit qui couvrirait, comme les jours de très grand vent ou un marteau piqueur juste à côté sur le trottoir, qui couvrirait donc tous les autres bruits. Tous les bruits, je crois, sont précieux et intéressants parce que c'est moi ce que je vois, c'est à partir des bruits en fait. Une fois que j'ai identifié les bruits, il y a des tas de choses que je vois alors que je les aurais pas perçues avant parce que tout à coup je les interprète. Donc merci le bruit, même les bruits humains, c'est le signe d'une présence humaine, d'une voilà.
Alors,
ça m'est très très important.
On va redonner la parole à Jérôme Sueur. Brigitte, merci beaucoup de nous avoir appelé. Jérôme Sueur, vous voyez, il y a des bruits qui contiennent des informations essentielles pour certains d'entre nous.
Absolument.
Et oui.
Absolument. Et je suis tout à fait d'accord. Et cette remarque souligne à quel point. Quand on n'est pas des déficients visuels, notre monde est essentiellement visuel.
Et oui.
Et on oublie toute cette part sonore, on y prend
plus
attention.
Oui.
Et ça devient quand même un bourdon continu. Mais parce que nous, on n'y entend pas des informations, on ne recherche pas de l'information.
C'est ce que disait Christine Guibaud.
Et l'exercice peut être fait. De fermer les yeux en ville et de décomposer le paysage sonore et d'essayer de le comprendre et de comprendre ces différentes parties et c'est la dynamique de ces différentes parties. C'est extrêmement intéressant de faire cet exercice.
Alors, je voulais vous demander en préambule de cette dernière partie d'émission, Jérôme Sueur, est-ce que le silence existe réellement?
Alors, le silence, c'est compliqué.
En réalité, est-ce que le silence existe vraiment?
Non. Alors, le silence absolu, si vous voulez, l'absence totale de son n'existe pas. Il y aura toujours un petit son, même subtil, qui va intervenir. Tout simplement le mouvement de vos corps, le son de votre cœur, le vent dans vos oreilles, il y aura toujours un petit peu de son. Donc le son absolu, non, n'existe pas, même si on se met dans une pièce totalement isolée, c'est extrêmement compliqué. Donc non, il y a des silences relatifs. Alors moi, je parle de silence naturaliste, qui est, je suis désolé, mais c'est cette ambiance sonore que l'on peut avoir dans des environnements naturels sans bruit, son humain. Où là, on a des sons qui sont totalement liés à la nature et on enlève ce que moi j'appelle la part de bruit, mais je comprends que pour d'autres, ça ne soit pas du bruit.
Alors, il y a Denis qui nous a écrit aussi sur le site de France Inter, qui nous dit « J'ai été au-dessus du cercle polaire et j'ai été impressionné par le son du silence. J'avais l'impression de l'entendre. Pour moi, c'était le plus beau son. » Mais voilà, peut-être ne serait-ce qu'en entendant le battement de son cœur, il n'était plus dans le silence absolu. Jérôme Sueur, vous nous avez envoyé un son que vous avez capté dans une forêt du Haut-Jura. Alors, je vous propose de faire l'expérience. On va l'écouter. Ce son, il faut bien tendre l'oreille, parce qu'on va entendre le chant des oiseaux qui se mêle aux gouttes de pluie qui ruissellent sur les feuilles des arbres. Et on entend aussi au loin, mais très très au loin, un avion. Tilassine, est-ce que vous avez entendu l'avion ?
Ouais.
Ah oui, vous l'avez entendu.
Ouais, bien sûr.
Jérôme Sueur, moi j'ai dû écouter 3 fois l'extrait avant de l'entendre. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors ça dépend.
C'est une histoire d'oreille absolue.
C'est très grave. Non. Mais bon, c'est vrai qu'il est distant, mais comme c'est un son très grave, il se peut que selon le matériel que vous utilisez, on ne puissiez pas l'entendre avec des petits écouteurs ou avec un petit haut-parleur, on l'entendra pas, ou sur un ordinateur.
Mais attendez, rassurez-moi, là, vous l'avez pas, vous réécoutez pas tous les sons que vous enregistrez, c'est-à-dire qu'il y a des machines, j'imagine, des ordinateurs qui analysent tout ça, qui analysent les fréquences.
Voilà, donc on capte des centaines de milliers d'enregistrements par an.
Moi, j'ai pas ça.
Tilassine, il dit qu'il a pas ça.
mais je pourrais te prêter du matériel. mais donc voilà, c'est une autre approche qui est un petit peu moins sensible, ce qui est peut-être aussi un petit peu triste, mais on est un petit peu dans l'automatisation, dans l'observation automatique, où on s'absente et on laisse les machines un peu travailler pour nous, parce qu'en effet, on collecte énormément de données, et donc après, on fait appel à des techniques d'intelligence artificielle ou d'analyse de signal pour aller rechercher des informations intéressantes en termes d'écologie. Ça veut dire, par exemple, rechercher dans ces enregistrements tous les sons des insectes qui volent et qui potentiellement pollinisent. Ou tous les tambourinements des piques, les piques et pêches et les autres oiseaux, donc qui tambourinent les arbres et qui nous apportent des informations sur l'état de la forêt. Ou alors, on va essayer de qualifier de manière générale la richesse sonore de ces enregistrements pour savoir si elle évolue avec le temps, selon le cycle jour-nuit, selon les saisons et puis aussi selon les années.
Christine Guibaud, est-ce que vous êtes comme Tilassine ou plutôt comme Jérôme Sueur, vous posez vos micros ou vous le tendez, vous l'avez à la main et vous le tendez vers les gens que vous avez envie de capter et vers ce bruit de la ville que vous avez envie de capter?
Alors c'est vrai que le contexte est un peu différent, mais oui. On a, en tout cas moi j'ai l'habitude de travailler beaucoup en mobilité. C'est souvent quand on s'intéresse en fait à la manière dont on perçoit, il y a plusieurs logiques de recherche, soit de poser son micro et de le prendre comme une entité qui va objectiver un environnement sonore, de décrire des scènes par exemple comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais ça peut être aussi une autre logique d'essayer de savoir comment chaque individu perçoit. Donc il y a des techniques d'enregistrement comme le son binaural par exemple qui permet de se rapprocher de ce qu'on entend nous quand on marche debout, et c'est souvent quand on est dans la mobilité en fait qu'on entend mieux les contrastes, qu'on entend qu'on peut aussi verbaliser ce que nous évoque le son. On parlait tout à l'heure du silence et de son existence ou pas, mais souvent c'est dans les contrastes qu'on entend qu'un lieu est beaucoup plus calme ou beaucoup plus apaisé qu'un autre endroit. C'est jamais objectivement silencieux ou objectivement bruyant.
Bien sûr,
il y a aussi tous ces lieux d'entre-deux qui sont intéressants d'étudier et moi qui m'intéresse beaucoup. Mais il y a aussi cette logique de site. C'est vrai que si on prend des lieux bâtis, on n'a pas parlé beaucoup d'architecture encore, mais c'est l'acoustique dans les lieux fermés, c'est très important aussi, la manière dont on perçoit dans les lieux fermés. On peut imaginer que dans une bibliothèque, l'environnement sonore, ça sera pas le même que dans une église.
Bien sûr.
Ou une administration, avec des codes sociaux qui sont attachés sur la manière dont on va produire les sons. Donc tout ça, ça fait des démarches de recherche un peu différentes. Donc l'enregistrement, c'est rarement en fait un outil objectif. C'est déjà poser un micro, c'est déjà avoir un
de prendre un projet, angle, c'est ça, et décider un peu.
Voilà, c'est un angle d'écoute.
Titi Lassine, est-ce que vous l'avez recherché, le silence, ou pas du tout?
Non. Et puis souvent on le trouve pas de toute façon, ou peut-être je vais pas aller dans l'espace, peut-être je pourrais le trouver là-bas, mais
et encore je pense que c'est très bruyant.
Bah bon. Non, dès qu'il y a plus d'oxygène, dès qu'il y a plus d'air et tout, là au moins je pense qu'on est vraiment tranquille, mais ici sur Terre en tout cas voilà, il existe pas vraiment. Et puis surtout il faut avoir des machines extrêmement performantes, parce que dès qu'on veut enregistrer du silence, on entend juste le bruit de ses propres machines au bout d'un moment. Donc ça m'est déjà arrivé de me retrouver.
Mais les sons de la nature vous inspirent énormément, je pense notamment à votre morceau Alda que j'aime particulièrement, où on vous entend jouer du saxophone dans une grotte marine. Ouais. Comment est née cette idée totalement folle?
Ben là, j'étais aux îles Féroé et puis effectivement, on parlait des grottes maritimes qui sont assez exceptionnelles, où il y a les vagues qui claquent à l'intérieur, qui résonnent et tout. Et du coup, je me suis retrouvé sur un petit zodiaque avec mon saxo et des micros, donc avec en plus une houle qui bougeait extrêmement, mais à juste partir et à improviser au saxo en fait dans la grotte. Comme ça, j'ai récupéré ces enregistrements et je suis parti de ça pour faire un morceau, quoi. Mais je savais même pas ce que j'allais jouer, quoi. C'était juste d'expérimenter la réverbération et le bruit des vagues environnant, quoi.
Ça veut dire vous faites une prise, vous en faites pas 50 de prises, là?
Ouais, c'était une prise qui a dû durer 20-30 minutes, en fait, d'improvisation de saxo, comme ça, puis après j'ai découpé dedans.
Alors j'aimerais, avant qu'on se quitte, vous poser une question sur votre futur. Dans quel sera votre prochain terrain d'expérimentation à vous trois, Christine Guibaud, votre voyage, votre prochaine carte postale sonore, vous nous l'enverrez d'où?
Je l'enverrai, je pense. Alors j'ai commencé un travail justement sur la perception des personnes malvoyantes, donc j'étais très sensible.
Ah, très bien,
Brigitte,
très bien.
justement pour essayer de rentrer dans des formes de perception qui sont un peu alternatives aux nôtres, qui sont les nôtres qui sont dominantes, et puis surtout de travailler encore et encore à inviter tout le monde, quelle que soit leur manière de percevoir, à apprendre à écouter, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement ou on ne fait pas culturellement, en
oui.
tout cas, parce que c'est pas le cas dans toutes les sociétés du monde. Il y a des sociétés où on apprend beaucoup à écouter tout en étant valide. Enfin, c'est jamais une question uniquement de d'appareil perceptif,
oui,
c'est
oui,
aussi
oui.
de la culture d'apprendre à écouter, et c'est aussi parce que on le sait aujourd'hui, écouter les autres, c'est aussi une manière d'être en relation avec les autres, c'est aussi avoir une autre vision de des villes. On a parlé de la nature, c'est important, mais c'est aussi la ville qui est aussi l'avenir de l'homme. Dans quel genre de ville on veut vivre? Est-ce que quel genre de calme on veut construire?
Oui,
est-ce
bien
que le
sûr,
calme, c'est
bien
juste
sûr.
L'absence de tous les sons de la circulation, ou c'est aussi réhabiliter le son des feuilles, le son du vent, le son des oiseaux, qui sont les sons évidemment aimés de tous. Donc je pense que mon travail va continuer dans cette logique-là, de comprendre les enjeux qu'il y a autour de l'écoute, d'inviter les gens à écouter, et puis de le faire aussi sous une forme artistique, parce que le son, c'est une matière sensible.
Bien sûr.
Et c'est pour ça je rejoins totalement les démarches qui ont été...
De Tilassine, de Jérôme Sueur, bien sûr.
Oui. D'avoir parfois on explique mieux les choses en les faisant écouter qu'en décrivant.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'est une démarche voilà d'écriture un peu alternative.
D'accord. Eh ben, on va continuer à vous écouter, Christine Guibaud. En un mot, Jérôme Sueur, votre prochain terrain d'expérimentation, un lieu.
Ça sera dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est donc une zone qui était protégée finalement par les conflits. Et donc on va aller enregistrer là-bas entre les deux Corées.
Eh bien, on attendra aussi ce projet. Est-il Assine, prochain terrain d'expérimentation dans votre studio pour des films?
Alors en ce moment, c'est un peu le cas. Et ouais, on attend que les frontières se rouvrent un peu. J'ai quelque chose, un petit village qui m'attend dans l'Himalaya indien. Je ne sais pas si je pourrais y aller très vite ou pas, mais voilà, il y a pas mal de projets comme ça.
Alors avant de se quitter, encore quelques notes dans nos oreilles avec la musique électro-joyeuse de Mead et son titre Let You Speak. Let You Speak sur France Inter par le DJ producteur lillois Mid. Il est temps de terminer ce voyage sonore rendu possible grâce à tous vos messages et à nos invités. Merci Christine Guibaud. Vous étiez en duplex de chez nos confrères de France Bleu Provence. Votre dernier livre, Le Chant des Serpents, musicien itinérant du Kerala, est publié aux éditions du CNRS. Merci Jérôme Sueur. On vous laisse repartir, capter vos sons dans la nature. Et je rappelle que vous êtes éco-acousticien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et merci infiniment, Tilassine, d'avoir été avec nous ce matin. Vous serez en tournée à l'automne avec une date importante, notamment, ça sera le 17 novembre à la salle Pleyel.
Exactement.
Merci beaucoup. Comme tous les jours, je vous propose de prolonger ce sujet avec ma recommandation, mon coup de cœur musical pour un album de jazz sorti au printemps, celui d'Hérel Besson et intitulé Try. Grâce à sa musique et au son de sa trompette, eh bien, c'est un voyage hors du monde et hors du temps qui vous attend. Un grand merci à l'équipe de l'été comme jamais. Juliette Medevielle à la réalisation, Arthur Le Breton à la technique, Margot Page, Anna Massardier, Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. Demain, à 9h sur France Inter, je vous propose de nous souvenir des belles choses. En compagnie de nos invités, nous explorerons le thème de l'oubli. Mais en attendant, place à la philosophie avec Charles Pépin. Bonjour Charles, qui vous accompagne ce matin ?
Bonjour, aujourd'hui je reçois la chanteuse Clio et nous essaierons de voir avec elle si une trop grande lucidité entrave définitivement la possibilité de l'amour.